Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui, pour une fois, l'histoire de quelqu'un que je connais. L'histoire de William Chifflet, tirée de son livre « Sois bègue et tais-toi » aux éditions de l'Archipel. Salut William.
Salut Christophe. Ça commence bien.
Ça commence bien. Et merci pour votre confiance William, puisque je vais raconter aujourd'hui l'histoire de ce handicap qui a bouleversé votre vie. Vous êtes bègue donc, mais sérieusement bègue. Vous le dites dans votre livre, il y a à peu près 600 000 bègues en France, mais en vérité des bègues sérieusement atteints comme vous, il n'y en a pas tant que ça, hein, pas tant que ça. On se connaît depuis un bon bout de temps, vous avez travaillé à France Télévisions, aujourd'hui vous êtes producteur pour une grosse maison de production. J'ai choisi de raconter votre histoire au jeu, ce que je fais assez rarement, mais je me suis dit que c'était une occasion assez unique, au fond, de vous faire raconter avec fluidité, à travers ma voix, ce handicap qui a bouleversé votre vie et avec lequel aujourd'hui vous semblez en paix. J'ai écrit votre histoire avec Christophe Dumazer, la réalisation est de Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la raconte sur Europe 1.
Dans ma vie, franchement, tout aurait dû aller très bien. Je suis le fils d'un éditeur et d'une prof d'anglais, une famille bourgeoise en légère rébellion contre son milieu, mais 68 est passé par là. On est bien né, on est dans l'air du temps, tout va bien. Et puis patatras, je me mets à bégayer. La première fois, c'est à l'école maternelle. Alors les enfants, décrivez ce que vous voyez dans cette image. Qui veut répondre? William.
Un pain?
Pardon, William?
Un pain?
D'accord, tu veux dire lapin? Comme c'est mignon, merci William. Tu peux baisser ton doigt. Je ne sais pas prononcer le L. Ça ne sort pas. Mais à part ça, on me trouve mignon. C'est charmant un blondinet qui prononce mal.
Tu vas à l'école, William? Oui, en maternelle.
Ça les fait sourire. C'est attendrissant, un enfant bègue. Moi, je n'ai pas conscience de ce qui m'arrive. Le bégaiement ne m'habite pas encore. Mais mes parents, en revanche, à partir de la grande section de maternelle, ils commencent à s'inquiéter. Alors le mercredi après-midi, il m'emmène dans un centre médico-social, pas loin de chez nous, chez une thérapeute, genre vieille fille. Elle me fait lire, décrire des images, des dessins. Et franchement, ça sert pas à grand-chose. L'année d'après, en CP, on passe à la vitesse supérieure. Une fois par semaine, le mardi, la directrice vient me chercher dans ma classe.
William, tu viens ?
Je quitte l'école plus tôt, ça me plaît bien. J'ai rendez-vous avec un orthophoniste. Mais ce que j'ai fait avec lui, je m'en souviens pas. Quand j'ai 7 ans, on déménage. On quitte le 15e arrondissement de Paris pour aller dans le Marais. Et on m'inscrit dans une école catholique. Je change d'école. Mais j'ai pas d'angoisse. On ne s'est jamais moqué de moi. On s'est moqué de mon nom, ah ça oui.
Gifler, je vais gifler.
Mais personne ne s'est jamais moqué, devant moi en tout cas, de ma façon de parler. Personne. Et à la rentrée, dans ma nouvelle école, rien ne change. Rien. Je parle, je m'exprime. Le lundi, je vais au judo, le mercredi, je vais au foot, le week-end, je vais chez les scouts. Bégayer ne me gêne pas. Une fois, chez les scouts, je me souviens, j'ai fait un petit spectacle. Un sketch de Fernand Reynaud. Mes parents n'en revenaient pas.
Qui c'est ? C'est le plombier. Qui c'est ? C'est le plombier.
Ils ont ri, mais ils n'ont pas ri de moi. De mes 8 ans à mes 10 ans, toutes les semaines, le vendredi, je vais chez un orthophoniste, à l'hôpital Trousseau. Là aussi, je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens que ça se terminait par de la relaxation, c'est tout. Et je comprenais pas à quoi ça servait. Voilà. Quand j'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans, le bégaiement n'est pas un gros problème. Un moins gros problème que le fait que je fasse pipi au lit. Oh ça, surtout quand je vais dormir chez un copain ou en colo. Ça, c'est l'enfer. Mais mon bégaiement, ça va. C'est vers mes 12 ans que ça a commencé à sentir le roussi. Le jour de ma profession de foi. Quelques mois avant, je suis allé voir le prêtre.
William, la cérémonie à laquelle tu vas participer sera l'une des plus importantes de ta vie de croyant.
Oui, mon père, oui, oui, je sais.
Je vais te poser une seule question, William. Crois-tu en Dieu ?
Oui, bien sûr.
J'ai menti. Je ne crois pas du tout en Dieu. Et puis arrive la cérémonie. Et à un moment, on avance vers l'autel, comme ça, à la queue-leu-leu. Et le prêtre tend un micro au premier.
« Moi, Julien, je promets dans l'amour de Dieu. »
Ça alors ? On m'avait pas prévenu de ce rituel. On m'avait pas dit qu'il fallait parler dans le micro. J'aurais esquivé. Je me sens piégé. Parler devant tous ces gens, j'y arriverai pas. Je suis pas capable. Alors j'arrive devant le micro. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. À la sortie de l'église, je suis envahi par la honte. Et je vois mon père, il est au bord des larmes. Il est prêt à aller casser la figure au curé. À partir de là, je vous le dis, j'ai coupé les ponts avec l'église catholique. Je ne croyais pas en Dieu, de toute façon. En tout cas, ce jour-là, j'ai basculé dans une autre dimension. Ce jour-là, j'ai compris que mon bégaiement aurait une lourde répercussion sur mon existence. Ce jour-là, j'ai perdu mon innocence. À la rentrée suivante, tous les mardis soirs, je vais voir un nouvel orthophoniste. Ça ne me déplaît pas, hein. C'est ma consultation. C'est ma vie, je la gère. Et puis arrive la fin de l'année. Et pour le dernier rendez-vous, le docteur fait venir ma mère.
Votre fils vit très bien avec son bégaiement. Il s'est mis en situation de le supporter, hein, et quasiment de s'en faire un allié. Ne vous inquiétez pas plus que ça, d'accord ?
Eh bien, vous savez quoi ? C'est mon dernier rendez-vous chez un orthophoniste. Je n'y retournerai pas. Il est peut-être temps que je vous raconte comment ça fait quand je bégaye. Chez moi, ça se traduit par un blocage. Il y a des syllabes qui sont fatales. Que, be, peu, te. Ça reste coincé dans ma bouche. Ça provoque une tension du visage. Ma bouche se tord, mes yeux s'écarquillent, ma tête s'agite comme si je cherchais de l'oxygène. Et là, c'est tout le haut de mon corps qui est secoué. Je bouge les bras, je donne des coups de pied. Impossible de me contrôler. Et ce qui m'angoisse, c'est le regard des autres. Du coup, quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je sais d'avance que je vais bégayer. Je m'en fous qu'il sache que je bégaye. mais le spectacle que je donne. Le spectacle. Un jour, ma mère me dit
« William, tu peux descendre à la boulangerie, acheter une baguette, s'il te plaît ?»
Je descends. Je choisis la boulangerie la plus éloignée de chez nous, une toute petite boulangerie. Il y aura moins de monde. Le mot baguette. Je vais trébucher sur le mot baguette.
Bonjour, une...
Et là, je lui montre les baguettes du doigt. Et elle comprend. Ouf. Chez moi, c'est pareil. On habite au troisième. Dans l'escalier, je suis censé dire bonjour au voisin. Mais bonjour, c'est le cousin de Baguette. Il y a ce fichu B. Alors quand j'entends quelqu'un qui monte, je m'y prépare un étage avant. Un étage avant, je commence à dire bonjour. En espérant que le bonjour sorte au bon moment, quand je serai devant la personne. Dans l'ascenseur, c'est pareil. Si on me demande...
Quel étage ?
C'est la panique. Alors autant que possible, j'esquive. Je montre les doigts. Un doigt, deux doigts, trois doigts. Au-delà du cinquième étage, c'est la galère. J'ai intérêt à avoir l'autre main libre. Tout ça à 12, 13, 14 ans ne me laisse évidemment pas indemne. Est-ce que mes proches s'en rendent compte ? Ou est-ce qu'ils pensent que ça n'est qu'une gêne, que finalement j'ai digéré ? Remarquez, c'est normal, hein ? Parce qu'en vérité, je simule, je feinte, je fais semblant de prendre les choses à la légère. Je pratique la fuite en avant. Et forcément, ça peut pas durer. Parce que ça s'aggrave, un peu comme l'acné sur le visage. Et parfois maintenant, ben... Je traverse des périodes de blocage complet. Toute communication avec les autres est impossible. Alors je me tais, je m'isole, je me cache. Là où ça a commencé à devenir vraiment un problème, c'est quand je suis rentré au lycée. Quand je suis passé de mon petit collège privé, conservateur et protecteur, au grand lycée Charlemagne de Paris. Et là, il a fallu que je me taille une place tout seul. Je vais vous raconter tout ça. Le jour de la rentrée, j'appréhende, forcément. Alors je me faufile au fond de la classe, discretos, pourvu qu'on ne me voit pas. Je trouve une place libre, je m'assois. Et là, miracle. Un mec s'assoit à côté de moi, belle tête, souriant, avec un baggy et des Doc Mertens rouges.
Salut, je m'appelle Joachim.
Salut, William.
Prends ton temps, tout va bien.
Son sourire est complice. Il a tout compris. En un clin d'œil, Joachim m'a pris sous son aile. Cool, il est branché en plus. Alors que moi, je me cherche. Et lui me permet d'approcher ce que tout le monde envie au lycée. Les vrais branchés, ceux qui font de la musique, ceux qui sortent le soir, ceux qui se font la bise entre mecs. J'ai de la chance. Ah ça oui, j'ai trouvé mon protecteur. Mais en dehors du lycée, je n'ai pas de relation normale avec les autres. Je n'ai pas d'amis. On est dans les années 80, il n'y a pas de portable. Il n'y a que le fixe. Et le fixe, je ne peux pas. Allô, je ne peux pas.
Allô ? Allô ? Allô, allô ?
Si seulement j'avais été adolescent à l'heure du SMS. En vérité, je traverse la pire période de ma vie. Mon bégaiement est au centre de tout. Un jour, mes parents rentrent de chez Ikea en voiture. Et sur Europe 1, ils entendent un certain Ivan Impoco, un ancien bègue qui raconte qu'il a trouvé une méthode pour se libérer du bégaiement.
Ivan Impoco, l'homme qui libère les bègues, c'est l'entretien de Laurent Guimier.
Parce qu'il ne voulait pas que plus tard son fils ait honte d'avoir un papa qui bégaye, Ivan Impoco s'est enfermé un jour, tout seul dans une pièce. Il a réfléchi et a finalement trouvé le remède. En 2 mois, il a surmonté ce handicap.
Il y a une partie non sonore, tout ce qui se passe avant de vouloir faire une phrase, c'est-à-dire avoir un comportement d'acteur, se dire en permanence qu'on est, nous aussi, l'acteur principal de notre existence. Deuxième partie du travail, c'est une partie technique pure, en passant par le biais musculaire. Là, je l'exagère juste un peu. Chaque syllabe, donc, est le résultat d'une contraction musculaire qui déclenche un son ressemblant, plus ou moins, à la syllabe.
Et il ne bégait pas. Et donc, quand ils arrivent à la maison, mes parents sont enthousiastes. Mon père appelle Europe 1, il obtient ses coordonnées. Et quelques semaines plus tard, je commence un stage à l'Institut d'élimination du bégaiement à Lille.
Vous étiez bègue ! C'est fini ! Si vous le voulez, vous pouvez lui faire la peau à ce bégaiement. C'est vous qui décidez !
La technique d'Ivan Impoco est basée sur les impulsions musculaires. Un mouvement vif de l'avant-bras vers le bas, ça entraîne une expiration automatique. Et là, on sort le son. On est 12 autour de lui à ce stage. Surtout des garçons, parce que 4 bègues sur 5 sont des garçons. Nous sommes tous des naufragés de la parole. Et donc, il nous apprend à donner cette impulsion musculaire avec le bras, de haut en bas. Et pour la première fois, je perçois une faille chez mon ennemi intérieur. Et je garde de cette première matinée de stage un souvenir extraordinaire. Après, c'est moins facile que prévu. Hein ? On va dans la rue, aborder des gens.
Bonjour ! Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, la boulangerie la plus proche ?
Avec nos mouvements de bras vers le bas, on a l'air de demeurer. Mais c'est sa théorie. Tout, sauf le bégaiement. Sauf que moi, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un fou. Et j'ai le sentiment de ressembler à un taré. Mais bon, au fil des jours, je progresse. Les impulsions de mon bras deviennent moins fortes, moins visibles. Il se passe un truc. Le vrai combat commence quand je rentre à Paris, quand je dois mettre en pratique la méthode. Et en vérité, certes, il y a des moments de fluidité, mais je suis toujours bègue. Je continue à croire à sa méthode, je fais les exercices tous les jours, le matin, une demi-heure, mais je reste bloqué. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, et évidemment, vous vous demandez si j'ai réussi à tomber amoureux. Eh bien oui, Sidonie. Je la rencontre dans la cour du lycée, le jour de ma rentrée en première. On est dans la même classe. Et oui, on sort ensemble. Et tout de suite, face à mon problème, elle trouve la bonne attitude. Quand j'ai besoin, elle m'aide. Il lui arrive de finir mes phrases. Mais souvent, elle me laisse me débrouiller. C'est comme si elle sentait qu'elle ne devait pas intervenir. Bref, elle est parfaite. Tout ça me donne l'occasion de parler du sujet. Est-ce que j'aime qu'on finisse mes phrases à ma place ? C'est souvent la première question que me posent les non-bègues. Au lycée, il y a un élève comme ça, Guillaume, qui finit toutes mes phrases quand je n'y arrive pas. J'aime pas trop. En fait, ça dépend de qui et comment. Il ne faut pas que ce soit systématique. Si ça m'économise de l'énergie, pourquoi pas ? Mais si c'est un truc personnel, si c'est un truc intime, c'est comme une intrusion dans mon intimité. Sidonie, elle a le droit de finir mes phrases. Parce que, en un regard, elle sait si elle peut parler à ma place. et me voilà en cours avec Denis Jambard, qui à l'époque dirige le magazine Le Point.
Bonjour à tous. Mon cours cette année va porter sur la science des sondages. Mais comme nous allons passer une année ensemble, j'ai besoin d'en savoir davantage sur vous. Alors je vais vous proposer de vous présenter chacun votre tour. Allez-y, commencez.
Oh non! Putain, je suis mal. Rien ne me fait plus peur que ça. Ça déclenche toujours chez moi une sorte de tempête. Des rougeurs, les chines glacées, les tempes humides.
Bonjour, je m'appelle William Chifflet. Vous avez compris que j'ai une particularité. Je bégaye. Mais je fais avec.
Eh oui, c'est comme ça que je fais maintenant. J'assume. Je dis simplement qui je suis. Et au final, même si mon intervention est un peu pathétique, et celle-là l'a été, on me regarde comme un type courageux, comme un type sympathique qui tente de surmonter son handicap. Mais quelques semaines plus tard, on doit faire un exposé à trois. Je me dis j'y vais, je ne me défausse pas. On a prévu de parler chacun son tour, je parlerai le deuxième. Ça tourne au désastre. Mon exposé est heurté, haché, sans doute incompréhensible. Je me flanquerai des gifles. Mes progrès ne sont qu'illusions. On me propose un stage à France 2, la deuxième chaîne de télévision française. Je me pince pour y croire. À la direction des études, qui s'occupe des audiences et du médiamétrie. J'ai rendez-vous avec une certaine Sophie.
Je dois d'abord vous expliquer que j'ai des blocages que vous risquez d'entendre, mais ils sont pas causés par le stress. Je bégais. Et là, ça plein temps. Même pendant les entretiens.
Eh bien, on était trois candidats. Et c'est moi qui ai eu le stage. Voilà. J'arrive au bout de mon histoire. Ma priorité était une vie normale. Objectif atteint. J'ai réussi à rétrograder le bégaiement à un statut inférieur. C'était un combat. C'est devenu une gêne. Rien de plus.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Voilà donc pour cette histoire tirée de votre livre William Chifflet qui s'appelle « Sois bègue et tais-toi » qui a été publié il y a quelques années aux éditions de l'Archipel. Alors après avoir lu évidemment ce livre, je me dis qu'une interview à la radio c'est forcément pas évident, même que c'est une torture. C'est le cas ?
Non, parce que maintenant c'est vrai que j'ai un peu l'habitude après avoir sorti ce livre, et je trouve ça tellement fou que moi qui bégaye, qui ai un fort bégaiement, et les gens vont l'entendre vite, soit à interviewer à la radio, je trouve ça totalement fou. Donc j'arrive à outrepasser ça.
Alors il y a quelque chose que vous racontez très bien, c'est le rapport qu'il y a entre ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire un type équilibré, en vérité, gentil, doux, merci, et avec ça un peu beau gosse en plus, avec des yeux bleus, tout ça, et votre handicap. Et du coup je me suis demandé, tout en écrivant cette histoire, si vous n'aviez pas été, au fond, obligé d'être gentil, est-ce qu'on peut être bègue et méchant ?
Est-ce qu'on peut être bègue et méchant ? C'est très difficile, parce qu'il faut pouvoir se défendre. Je pense qu'on peut être bègue et méchant, mais on peut être bègue et très mal dans sa peau. Moi, je crois, et je ne savais pas, mais je l'ai su à la fin de ce livre, c'est que j'ai réussi à vivre à peu près normalement, parce que je l'ai assumé. Donc, l'assumer, c'est de le supporter.
Là, c'est ce fameuse contraction ce musculaire contraction dont vous parlez, musculaire. Qui se traduit par des tressautements. Le supporter.
Porter, et le supporter, c'est de se dire que les autres vont être bienveillants. Et c'est vrai que bienveillance et méchanceté ne sont pas des choses qui vont bien ensemble. Et voilà. Donc je pense que les gens, finalement, veulent pas trop de mal. Donc sans doute, il y a un lien entre bégaiement et non et gentillesse.
Cette gentillesse, cette sorte de sérénité, de calme, de ce sourire apaisé que vous avez, je fais la description puisque les gens ne vous voient pas, mais en fait physiquement, vous êtes un type qui a l'air vachement bien dans ses baskets, et on ne peut pas soupçonner à vous voir physiquement que vous souffrez de ça. Vous pensez que c'est un héritage de vos parents, qui sont des gens calmes, éduqués, un peu intello, assez fantaisistes, détendus, décontractés dans la vie, si j'ai bien compris. Votre père s'appelle Jean-Loup Chifflet, il était éditeur, écrivain, peut-être il y a des gens qui nous écoutent qui ont lu de ses livres, ou est-ce que vous pensez que c'est un truc où vous êtes construit, comme pour sécuriser, au fond, William, face à son handicap?
Là, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas qui de la poule a fait l'œuf, voilà. Ce qui est sûr, c'est que mon environnement a fait qu'on a toujours assumé ça. On a très vite mis les mots sur les bégaiements, sur les mots qui n'allaient pas. Ça oui. S'appelait du bégaiement, oui. C'est pas de la gêne, l'hésitation, de l'angoisse. Et donc sans doute ça a dû m'aider. Mais c'est vrai que j'ai une bonne nature, c'est une chance. Mais voilà, je ne sais pas si cette bonne nature s'est faite avec ça, quoi.
Avant. Alors vous racontez extrêmement bien comment, quand vous êtes tout petit, le blondinet que vous êtes et qui bégaye attendrit les gens. Alors c'est quoi le mystère de cette histoire? Pourquoi ça attendrit un blondinet qui bégaye?
Je ne sais pas, parce que les enfants sont attendrissants, les enfants qui hésitent sont attendrissants. J'ai des enfants maintenant qui sont grands, moi je me souviens petit, on aime bien quand ils se trompent de mots, quand ils disent pas les bons mots, c'est trop chou, quoi. Voilà, un petit blondinet qui bégayait, on se dit c'est trop chou. Voilà, c'est sans doute un truc comme ça. Mais en vrai, non.
Mais en vrai, non. En vérité, vous en souffrez. Déjà, c'est le seul truc à la limite dont vous souffrez petit, c'est qu'on vous trouve tout le temps mignon, tout le temps gentillé, tout le temps chou.
Ouais, peut-être. Il y a plus grave, il y a pire. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ressentir une relation avec les autres, quoi. Donc là, c'est un peu là-dessus, quoi.
Alors, j'ai été très, très marqué, moi, par la scène de la profession de foi. Vous êtes donc en cinquième. Le curé vous a pas dit qu'il fallait prendre le micro pour dire ce texte. C'est d'ailleurs très surprenant. Vous pensez qu'il l'a dit aux autres et pas à vous?
Non, je sais pas. Je sais plus. Ça, je sais plus. Mais c'est moi, je ne savais pas. En tout cas, ça, c'est sûr.
Parce que vous n'y seriez pas allé.
J'aurais dit, je sais pas comment j'aurais réagi, j'aurais sans doute dit non, je ne peux pas, quoi. Ou j'aurais essayé de lui demander qu'il fasse quelque chose pour moi, ou une particularité. Mais je m'en suis. Sur le moment, peut-être avant, s'il me l'avait dit, je m'en serais pas rendu compte. C'est là, dans cette immense église, avec ce monde devant.
Ah, les yeux qui regardent.
Les yeux qui regardent, la queue qui n'avançait pas. Et là, c'est là où j'ai senti un truc. Mais c'est marrant, vous le racontez très bien. Je m'y revois encore, c'est glaçant, même maintenant, en 35-40 ans
après. C'est un trauma, quoi.
Ah ouais, c'est le vrai trauma, je me souviens, je me vois, je me dis non, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. J'étais dans un truc, oui, je bégaye, oui, ça me gêne un peu, mais je vis normalement, j'ai des amis, et surtout les enfants se moquent pas, ce qui est un peu, à cette époque, le cadre. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette séquence révèle quand même le mécanisme de ce qui fabrique le handicap des bègues, et le vôtre singulièrement, c'est qu'au fond, tant qu'il n'y a pas le regard des autres, vous ne souffrez pas. Ce qui fait souffrir, c'est le regard des autres.
Ben oui, parce que quand on bégaye, on est dit
diminué.
Voilà, on ne peut pas dire ce qu'on veut au moment où on veut et à qui on veut. Et voilà. Et surtout, ce que vous racontiez très bien tout à l'heure, ce que vous entendez, ce que vous ne voyez pas, il y a des gènes, il y a une vraie expression physique des blocages.
Ouais.
Et les gens vous regardent, les gens ne savent pas, et c'est tout à fait normal, ils vous regardent, ils se disent, mais ce mec qui est fou, quoi. Voilà, donc ça, tout le temps, 10 fois, 50 fois par jour, ça peut un peu
taper
sur le système.
C'est-à-dire que la manifestation physique du bégaiement peut se confondre avec un problème de handicap physique ou moteur cérébral.
Moi, on m'a souvent dit, vous avez une crise
d'épilepsie
ou des trucs comme ça.
Ouais.
Voilà, comme ça, quoi.
Alors, à un moment, donc, vous rencontrez cet orthophoniste, vous faites des séances toute l'année, puis à la fin, il fait venir votre maman, c'est le mois de juin, et il dit quelque chose à votre mère, il dit « Ne vous inquiétez pas, en fait, il n'y a pas de problème, il va vivre avec ça, laissez courir, c'est pas insurmontable. » Est-ce qu'il avait raison?
Je crois que oui, il avait raison. J'ai fait en sorte de vivre avec. Lui, il a peut-être dit je vis bien avec. Je dis non, je ne vis pas bien avec. Mais sans doute, j'en ai fait une force. Voilà, je ne sais pas quand ça s'est révélé, à quel moment. La différence, une particularité est peut-être une force. Sans jouer avec ça. Mais on est différent, donc il faut trouver des ressources. Je pense que ça vient de là. Je suis différent, ben faut l'assumer. Et de quelle manière tu transformes une faiblesse en une force?
En une force. Et alors, et votre mère, elle le prend comment? Et vos parents? Puisque au fond, il leur dit arrêtez de batailler avec les orthophonistes, les médecins et tout ça. Ça va aller. Il va vivre sa vie comme ça. Il va s'arranger avec ça. Et ils acceptent ça, vos parents?
Oui, parce que quoi, je sais plus exactement, mais quand on voit son enfant et qui malgré tout arrive à vivre normalement, même si on voit que je souffre au jour le jour, on essaie de voir le bon, ce qu'il y a de bien quoi là-dedans. Et si c'est vrai que même si il sentait en moi cette difficulté, je l'exprimais assez peu, sans doute, je l'essayais de les TGE et je me protégeais moi. Il le sentait assez peu, mais il me voyait vivre assez normalement. Et ça, c'est voilà, un enfant qui vit normalement, on se dit, il est sur des rails malgré tout, quoi.
Vos parents, c'est intéressant, parce que bon, c'est un profil particulier, ce sont des intellos un peu bourges, post 68 heures, ouais, tout ça. Et est-ce que ça aide, ça, face à un problème comme ça, par rapport à des gens un peu raides,
oui,
sur le plan moral?
Ça aide à mettre des mots sur les mots, ce que je disais tout à l'heure. Oui, bégaye, point. C'est pas honteux. Ouais. C'est pas une gêne, c'est un truc qui est très difficile et qui ne s'explique pas. Donc oui, quand on est un peu plus charpenté, je dis, on peut le prendre un peu de manière frontale et ça s'appelle du bégaiement. Il faut savoir que le bégaiement, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Donc évidemment, dès que c'est un peu difficile à expliquer, c'est toujours plus difficile à vivre.
Alors vous avez une théorie, justement, sur d'où ça vient. Ça, j'en ai pas parlé dans le récit, mais vous le racontez au tout début. Vous pensez-vous que ça vient d'un trauma que vous avez vécu petit? Vous êtes tombé dans une piscine chez des amis, et vous vous dites que c'est peut-être ce trauma-là qui a entraîné le bégaiement. Ça, c'est votre sentiment à vous.
Moi, quoi, à cette époque-là, dans les années 70, 80, on disait le bégaiement, c'est psy. Donc moi, j'ai pris dans ma naissance des trucs psy. J'ai été opéré à 8 mois d'une hernie, je me suis dit, ça vient peut-être de là aussi. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a un peu plus de recherche, on dit que c'est peut-être génétique ou dans le cerveau. Bon, bref, ça vient peut-être du cerveau, donc c'est peut-être une maladie en vrai. Donc on me dit c'est psy, ce qui est vrai. Pourquoi moi je m'en suis sorti aussi, un des éléments dans mon explication à moi, c'est que j'ai pas passé ma vie à me dire oh là là, mais ça vient. D'où ces drames?
Parce qu'il y a des mecs qui cherchent à travers, par exemple, la psychanalyse.
Voilà, mais j'ai fait un peu de
psychanalyse, ouais.
Rien. Ouais. Donc, à un moment, moi, j'ai avancé. Si vous voulez. Mais est-ce que c'est là? Je ne sais pas. Je m'en fous, en fait.
Maintenant,
je m'en fous.
Alors, Joachim, moi, il m'a bien intéressé, Joachim, parce que c'est encore la preuve que ce handicap existe dans le regard des autres. Parce qu'au fond, Joachim, dès le début, il vous regarde avec bienveillance. Il est à l'aise dans ses baskets et vous sentez tout de suite que il accepte votre handicap et qui va vous protéger dans cette classe de seconde dans laquelle vous aviez la hantise d'arriver. Moi, ce que je veux savoir, c'est si vous l'avez revu, Joachim, si c'est qu'il a joué ce rôle.
Alors, c'est très drôle parce que je le revoyais assez souvent et il y a un moment, je lui ai écrit, je lui ai dit, il y a 5 ans, je lui demande son
autorisation pour le
même pas, et je lui envoie mon
le livre.
Livre, il en revenait pas, je lui avais rien dit, jamais je lui avais dit ça.
Il avait jamais senti?
Non, si, il avait peut-être senti un truc, mais il en revenait pas.
D'avoir compté à ce point-là, quoi.
Mais ce qui est, c'est vraiment ce truc, c'est un vrai symbole de la manière de vivre le pays. Ce que je sais maintenant, parce que suite à ce livre, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, finalement, c'est rien le pays. Si on le prend les choses, les faits, on dit plus difficilement les choses avec plus de temps. Voilà, c'est, finalement, c'est pas si dramatique.
Et mais ce qui est dramatique. Tant de plus que ça.
Et pas de temps, ça dépend qui, ça dépend quoi. Ouais. Et si on n'arrive pas à le dire, ben on l'écrit un peu. Si un mot ne vient pas, on l'écrit. C'est pas dramatique, en fait. Et ben, cet élément-là, cette anecdote-là, c'est symbolique. C'est que nous, on a l'impression, nous, les becs, parce que tous les becs sont dans ce cas-là, se disent, mais les gens vont rire, vont se moquer, etc. Je veux pas me montrer dans cet état. Et il y a un type qui a. On dit, mais ce qui remet le bégaiement à sa place, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais ça, c'est facile à dire.
Et à vivre, c'est autre chose. Alors, Yvan Mpoko, parce que Yvan Mpoko, peut-être que. Enfin, moi, j'ai vu le reportage d'Envoyé spécial sur ce bonhomme, je me souviens, quand à l'époque il a émergé comme ça. Et donc, je m'étais dit, c'est extraordinaire, ce type a trouvé une méthode. Ensuite, j'ai lu que cette méthode était très contestée, que c'est un type qu'on a critiqué pas mal, etc. Vous ne le critiquez pas, même si en vérité, il vous a rien apporté ou pas grand-chose, j'ai l'impression.
Si, ouais, non, c'est vrai. Moi, je le critique pas parce que j'ai pas réussi à appliquer sa méthode.
Vous essayez pas, hein. Je vous vois pas avec le bras.
Plus. Non, mais j'ai des restes, hein. J'ai des résidus. Si de temps en temps, je bouge les bras, je pense que ça vient de lui. Mais ce que je ne critique pas, c'est que j'ai vécu, j'ai senti la fluidité un jour. Et vous ne rendez pas compte, vous, les fluides, contre nous, les bloqueurs, mais c'est un truc de dingue, une sensation physique, les mots qui viennent. Ce moment-là, je suis redevable.
Une fois.
Ça. Oui, il y a ce moment, je m'en souviens très bien. Et puis après, de temps en temps, j'ai réussi à sentir ça.
Donc mais
ça
comment ça se fait que vous ne soyez pas arrivé à appliquer? Parce que lui, quand on l'entend, il est parfaitement fluide.
Parce
tout
que
le temps.
C'est un truc très psychologique, ce que vous avez dit dans le racontant. Est-ce que je dis maintenant, j'étais bègue, je vivais, supportais d'être bègue. Je supportais le. Ouais. Donc regarde,
ouais. Ça, vous en aviez
lui,
plus besoin.
J'en ai pas besoin. Lui, il était prêt à tuer des gens. Il était prêt à se suicider. Il ne se supporte pas en tant que bègue. Donc tout était mieux que le bégaiement, ce qui n'était pas mon cas. Voilà l'analyse que moi.
Et ça vous a gêné ce que ces mouvements musculaires de bras suscitaient dans le regard des autres aussi, c'est-à-dire vous passiez pour un gogol.
Voilà,
aussi.
J'avais pas besoin de ça en plus.
En plus du
j'ai
reste.
J'ai fait un choix dans le pire, je préférais le bégaiement avec lequel j'avais créé une espèce de relation intime qui faisait qu'on vivait bien ensemble.
Alors vous racontez aussi dans votre bouquin que vous êtes passé par un médicament,
ouais,
qui était quoi, une sorte d'anxiolytique.
Ouais. Une désinhibiteur.
Ouais. Ça n'a pas marché plus que ça non plus.
En fait, je ne suis pas une. C'est ça qui fait que
vous n'êtes pas inhibé.
Non, je ne suis pas quelqu'un d'inhibé.
Parce qu'il y a des bègues inhibés.
Ah, bah, il y a des bègues. Ah, ouais. Ça, je peux dire, j'en ai vu, moi, depuis. Même moi, pour moi, c'est dur à voir, quoi. Des gens qui ne peuvent rien dire, qui sont et qui se referment petit à petit. C'est vraiment un handicap qui est très lourd, en fait.
Vous êtes bien avec des bègues?
Alors, je suis bien avec des bègues, oui et non. Oui, quand je faisais des orthophonies à l'époque, oui, parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul, mais non, parce qu'on se voit, et c'est insupportable.
Ah ouais. On se voit comme dans un miroir.
On se voit comme dans un...
Ouais.
Voilà, donc, non, deux dans une pièce, c'est trop.
Vous ne faites pas partie d'une association de bègues?
Je suis un peu, je fais des trucs, après ce bouquin, c'est vrai que je suis redevenu un peu emblématique et le porte-parole.
Une parole de
parole
tout ça,
qui pour un bec vous une sorte de réussite quand même. Voilà, je suis devenu porte-parole, mais je suis pas un militant, je suis pas, voilà, je suis dans des associations, mais je suis ça de loin.
De loin. Alors vous racontez enfin, et ça sera la dernière anecdote, mais l'anecdote de votre fils Oscar. Un jour, il est tout petit et il bute sur un mot. Et là, panique chez vous, quoi. Vous vous dites, il va être bec comme moi. Je lui ai transmis mon bégaiement. Et alors, c'était quoi, en vérité?
Bah, c'était, oui, c'était ça, parce qu'il est un peu bègue, mais.
Ça reste là, c'est bon.
T'entends, il est un peu, mais surtout, il arrive à bien vivre, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Parce que sans doute, je lui ai expliqué, on a vu des gens, on a fait de l'hypnose, qui a été assez utile et tout, donc. Donc, il est un peu, il le vit très bien, c'est pas comme moi. Je fais gaffe, je suis vigilant, j'essaye de pas l'embêter avec ça.
Ouais.
Pour l'instant. Rien de dramatique. Mais il a des petits blocages.
Des petits blocages comme ça. Voilà. Mais alors, vous pensez-vous que c'est du mimétisme, en fait? Que c'est limite son père.
J'ai cru au début que c'était du mimétisme. Après, j'ai vu mon orthophoniste. Parce que ce que vous avez dit, c'est quand j'étais à la fac, j'ai donc revu une orthophoniste.
Une orthophoniste, j'ai pas
tout
raconté.
Voilà, qui m'a fait énormément de bien et qui m'a dit non, c'est pas du mimétisme, mais c'est là où elle m'a dit c'est peut-être génétique. C'est là où il y a peut-être un lien.
Mais c'est peut-être. Quoi.
Voilà, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de recherche sur le bégaiement, en fait.
Je suis super content qu'on soit arrivé à faire cette émission, William Chifflet.
Moi aussi.
D'avoir raconté votre histoire, que on retrouve donc dans ce livre qui est, qu'on trouve toujours sur Internet, Merveille de l'époque, les livres ne meurent plus. Sois bègue et tais-toi. William Chifflet, préface de François Bayrou.
C'est vrai.
Timidote, hein, j'ai trouvé sa préface. Enfin, il y va moyen. Oui, mais il pense qu'il n'est pas comme vous, lui.
Ouais, mais sauf qu'il a dit ce qu'il l'a dit sur sa vie, c'était vraiment ce que moi j'ai ressenti aussi, donc j'ai trouvé ça fort.
Merci William Chifflet. Salut.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.